Alors, Fabien Vidal, je suis membre de Palo Alto depuis un an. Et le premier événement que j'ai organisé avec Palo Alto, c'est justement le rassemblement Ludum Dare en mois d'août. Et là, c'est le deuxième que je fais avec eux.
Ok, Ludovic.
Moi, Ludovic Lafage, je suis développeur web essentiellement. J'ai connu justement Palo Alto via les événements autour du développement qu'on fait depuis un moment. Ça fait 3 ans, je crois, que je suis membre. Et du coup, effectivement, je suis le binôme de Fabien sur la partie Ludum Dare.
Donc tous les deux membres de Palo Alto, c'est quelque chose qui regroupe plein de personnes et c'est évidemment pas votre activité principale, vous avez tous quelque chose à côté, c'est un peu le principe de Palo Alto.
Alors, c'est effectivement le cas. Voilà, bon, on est en train de se poser la question d'aller un peu plus loin sur Palo Alto, d'avoir des salariés, des choses comme ça. Mais dans l'immédiat, effectivement, chacun a une activité à côté.
Alors qu'est-ce que c'est exactement Palo Alto? C'est une start-up associative, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est une association où l'idée est vraiment de pousser l'esprit start-up et le côté numérique, de vraiment essayer de dynamiser tout cet aspect-là et puis rassembler un peu les gens autour de ça, provoquer des rencontres, provoquer tout ce qu'on peut avoir besoin pour construire quelque chose aussi, quand on a des idées. Enfin, c'est vraiment construire un écosystème autour de la création de start-up et du numérique.
Ça existe depuis combien de temps? Qui c'est qui l'a monté surtout? C'est quelque chose qui existe dans d'autres endroits?
Le même genre d'association existe un peu partout dans les grandes villes, hein, aujourd'hui. J'aurais pas d'exemple à donner, mais c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement. Pas toi, Fabien, si t'as.
Alors j'ai pas de nom
Non,
précis
mais
en
pas
tête, je sais qu'il y
de.
en a
Mais ça
d'autres.
existe,
Quoi,
ouais,
c'est une structure qui existe.
c'est des structures qui existent. Palo, ça existe depuis 5 ans, 6 ans.
Sur
Je...
Tours, du coup?
2012, ouais, c'est depuis 2012. Ça a été créé en fait par des jeunes start-uppers. Il y a un couple par exemple qui sortait de l'ESM et qui est en train de monter leur start-up. Il y avait une personne qui venait de Brassard et qui, pareil, était très, très branchée par ce genre de choses. Et c'était un moment à Tours où il y avait vraiment un contexte, une envie de créer, faire des choses ensemble, se réunir. Par exemple, c'est au même moment que le Fab Lab, donc l'association Fun, est en train de se constituer. Et c'est le moment aussi où l'agglomération réfléchissait à faire une pépinière entreprise. Donc il y avait pas mal d'envie à ce moment-là. Et effectivement, ce groupe de 4 personnes a réussi à cristalliser pas mal, beaucoup de monde qui avait envie de se réunir, de créer des événements. Effectivement, ça, pendant un an, on va dire, ça a un petit peu végété. Et ça a vraiment pris son essor à partir d'un événement qu'ils ont fait qui était un Startup Weekend. C'est-à-dire 56 heures pour créer une entreprise. Et là, ils ont galéré pendant 3 mois pour rassembler 70 personnes. Et ça a été une folie, c'était génial. Il y avait plein de monde qui finalement sont venus pour voir les projets. Ça a fait venir des élus, des chefs d'entreprise. Et d'un coup, ça a complètement fait exploser l'association, ça l'a fait connaître. Et pas mal de membres sont arrivés à ce moment-là en disant, mais oui, mais moi, j'ai envie d'organiser des événements. Et voilà, et c'est comme ça que l'association est née et a cristallisé beaucoup d'énergie dans l'agglomération.
Aujourd'hui, c'est un réseau. Vous êtes combien de membres? Ça marche comme un réseau, en tout cas?
Pas tout à fait. Il y a d'autres associations qui fonctionnent beaucoup mieux en termes de réseau, mais c'est quand même 150 membres. La force de Palo Alto, c'est vraiment les événements qui sont organisés et qui arrivent à rassembler du monde. Par exemple, je sais plus, la newsletter, on voit que c'est plusieurs milliers de personnes qui la reçoivent et qui la lisent. Parce que justement ils sont intéressés par les événements et donc c'est-à-dire que les événements qui sont organisés rassemblent des personnes qui vont au-delà des bénévoles qui sont là pour, qui veulent organiser des choses.
150 membres, c'est des membres de tout horizon. Comment est-ce qu'il y a des conditions? Comment
Non.
on rentre dans Palo Alto en fait?
Il n'y a vraiment aucune condition, et justement, c'est un des trucs que Palo Alto défend, c'est qu'on peut participer à tout ce que fait Palo Alto sans jamais être membre. On devient membre à partir du moment où on en ressent l'envie, le besoin, quelle que soit la raison. Et non, il n'y a pas de. On a vraiment tous les horizons. Il y a des gens qui sont plutôt dans la com, plutôt dans le droit, plutôt dans le marketing, plutôt dans le dev, plutôt dans le graphisme. On a vraiment tous les horizons, et ça fait vraiment un pool de compétences assez riche dans Palo Alto.
C'est même pas axé plus numérique que.
Ah, une vocation forte quand même,
Ouais.
c'est le numérique.
Mais ça reste très large le numérique de toute façon.
Oui, parce qu'on l'utilise. Il y a par exemple une action qui est des coding goûter. C'est quelqu'un, son kiff, c'est apprendre à des enfants à programmer. Donc il prend des enfants de 10 à 17 ans avec les parents à côté et ils jouent sur Minecraft, sauf que derrière, ils font des jeux, des programmes, des choses comme ça.
Et comment ces événements-là, ils sont montés justement? C'est vraiment quelqu'un qui a une idée ou il y a un bureau, il y a l'organisation en interne? Comment?
Une personne peut suffire du moment qu'on arrive à solliciter l'énergie autour pour poursuivre aussi. Hein. Mais sinon, à partir de moi, il y a tout ce qu'il faut. Une personne peut suffire à organiser un événement.
C'est vraiment, ouais, c'est un, quelque chose qui nous plaît, bah, qui plaît à la personne et elle veut l'organiser et ça se fait comme ça sans...
En fait, il faut y penser comme un récif de corail.
Ouais.
Un récif de corail où tout un écosystème qui vit autour, bon, qui a les petites anémones, tout ça, qui constitue le corail, et des poissons, des algues qui viennent s'accrocher à ça. Et c'est vrai qu'au début de Palo Alto, finalement, c'est là où l'agglomération bah, Tour Plus à l'époque avait beaucoup aidé, en donnant accès à un lieu gratuitement. Palo Alto a pu accueillir d'autres associations qui étaient déjà constituées. À l'époque, c'était par exemple la Web School ou le JUG, Java User Group. Alors maintenant, c'est des actions qui, certaines qui ont été incorporées dans l'association. mais effectivement, ça a servi de support pour développer des choses que des personnes ont envie de faire et parfois par des associations externes à Palo Alto.
Est-ce que toutes ces compétences, toute cette pluridisciplinarité en fait, qu'on retrouve dans l'association, ça vous permet, vous, dans votre vie professionnelle à côté, dans vos formations, dans vos travaux respectifs, de vous aider, de prendre des compétences chez l'un, chez l'autre, de travailler ensemble peut-être?
Ouais. C'est vrai que pas mal de membres sont quand même assez proches du monde de l'entrepreneuriat ou du numérique ou des startups. Et c'est vrai que ça a pu être un bon moyen de rencontrer des gens intéressants et dynamiques et après monter des projets ensemble.
Mais c'est pas la base de l'association, mais ça peut se faire justement le fait qu'il y ait toutes ces personnes de réunies parce ouais. que vous avez un lieu commun, c'est ça?
Typiquement, étant un développeur indépendant, ça arrive que j'ai de l'activité qui viennent de gens que j'ai rencontrés via l'association. On a un peu tout et des projets qui sont montés spontanément entre membres aussi.
Et les 150 membres, c'est tous des membres actifs ou il y a quand même un noyau j'imagine, ouais.
Comme toute association, il y a des membres qui ont envie de supporter l'association, mais qui n'ont pas de temps. Ça dépend de la période de la vie, de la période de l'année. Et il y a au moins une trentaine de membres actifs, c'est-à-dire qui s'impliquent dans le fonctionnement de l'association, son image ou l'organisation d'événements.
Et ça peut fluctuer sans problème. Enfin, du coup, on a un membre qui a monté sa start-up entre-temps, et là, aujourd'hui, il a beaucoup moins de temps qu'il avait l'année dernière.
Forcément.
Son investissement l'année dernière était très fort. Cette année, il est toujours investi, mais... Attends, moindre.
On va donc parler du Ludum Dare, qui est un événement organisé par Palo Alto, et c'est vraiment ça le gros de votre activité, en fait, le cœur de votre activité, pardon, l'organisation d'événements. Le plus gros, comme on en parlait dans la première partie, c'est le Startup Weekend. C'est d'ailleurs comme ça qu'est née l'association. Est-ce qu'il y en a d'autres vraiment importants qui reviennent régulièrement, qui sont ponctuels en tout cas?
Weekend à thème. Enfin, voilà. Non, pour l'instant, on est dans des gros, gros événements, on a surtout le Startup Weekend qui revient une fois par an.
Après, sur les événements réguliers, toutes les semaines, toi, t'en fais un certain
nombre? Oui, moi, je fais un paquet. Bah, tous les lundis, il y a le Hacking Day où on a une espèce de permanence pour les gens qui ont envie de discuter ou de faire du code. On a plein de meet-up autour de différentes technologies aussi, hein, JavaScript, Java, Docker, etc. Donc, on a aussi plein de choses aussi, hein, autour de la technique. Il y a des choses autour du graphisme. Il y a les ateliers web design, par exemple. Il y a les coding goûter dont tu as déjà parlé. Qui sont une fois par mois.
Ah oui, il y a des événements qui sont bien plus ponctuels, en fait, parce que quand on parle d'hebdomadaire, de mensuel, c'est...
On a un peu de tout.
C'est ouais. conséquent, quand même. C'est comment vous faites pour gérer toute cette organisation?
On est nombreux.
Oui, mais j'imagine, pour en plus de l'activité principale, de gérer un atelier par semaine...
Alors, pour l'atelier par semaine, effectivement, là, c'est un peu gourmand de notre côté, mais on est plusieurs. On est trois, et on essaie de demander aussi aux gens qui viennent régulièrement s'ils veulent aussi proposer du
donner
contenu.
Un coup de main.
On profite beaucoup aussi du réseau. Il y a pas mal de gens qui ont du contact aussi pour de l'atelier, etc. Donc, enfin, pour tous ces trucs-là, globalement, on profite aussi du réseau Palo Alto.
Et les... Allez-y.
Oui, je voulais dire par exemple sur les ateliers pédagogiques. Il se trouve que c'est quelqu'un qui fait de la formation professionnelle, qui fait ça donc de manière bénévole, mais il valorise aussi sa propre expérience. Et donc, ça lui demande un temps de préparation, mais aussi c'est des choses qu'il maîtrise bien.
Oui. Forcément, les événements que vous organisez, est-ce que, par exemple, il y en a que vous voudriez instaurer comme le Ludum Dare dans une certaine continuité, une certaine ponctualité? Ou c'est pas du tout l'idée, c'est vraiment des one-shot, on a une idée, on fait ça.
On fait assez peu de one-shot, en fait.
Du one-shot ou du...
On fait assez peu de choses très ponctuelles.
Oui, effectivement, par exemple, le Ludum Dare, C'est vrai qu'on a fait un premier événement, mais déjà on réfléchissait sur qu'est-ce qu'on a envie de faire par la suite. Est-ce qu'on a envie de le continuer? Donc on a envie de le continuer. Et comment est-ce qu'on va le faire? Déjà celui-là, donc c'est le deuxième qu'on va faire, le deuxième rassemblement. Et on le réfléchit ou, par rapport à qu'est-ce que ça pourra donner après, comment on va créer des images cette fois-ci, comment on va créer un petit peu une identité, une communication pour pouvoir le faire encore plus facilement la prochaine fois.
Et c'est ouvert à tout le monde en général. On va parler du Ludomarais dans un instant, mais en général, est-ce qu'il y a quand même une catégorie de personnes, un type de personnes qui est plus ou moins concernée par les ateliers, ou le but c'est de toucher le public le plus large possible, autant des novices que des personnes plus ou moins...
Pour moi, ça dépend vraiment de la nature des ateliers. Par exemple, quand on a, alors c'est des choses où je suis pas allé, mais un Java User Group, donc c'est surtout pour des développeurs qui, dans leur métier, utilisent le langage Java. Quand on a un coding goûté, le public, c'est des parents qui ont des enfants entre 10 et 17 ans, et ces parents veulent apprendre leurs enfants à programmer.
Donc au final, oui, il y en a pour tout le monde, plus ou moins. C'est que tout le monde ne peut pas aller à n'importe quel événement, mais il y a des événements pour presque tout le monde.
Ouais. Alors il y a quelques événements qui sont beaucoup plus ouverts.
Oui, il y a quand même des événements plus grand public. Le Ludomdare, justement, on va y venir. C'est un événement, pour le coup, qui est grand public, mais c'est un événement qui est international. Là, c'est pas juste un événement organisé par Palo Alto. C'est... Comment c'est né exactement le Ludomdare?
Ah, l'événement Ludomdare international?
Ouais.
Je sais pas.
Ouais, c'est un peu compliqué, même quand on pose les questions. Il y a des notions de bits au milieu de tout ça. C'est assez drôle de lire un petit peu le truc. Et je pense qu'il essaie de maintenir une petite obscurité aussi autour du truc pour maintenir un peu l'aspect mythique. Et le Ludomdare, c'est né de défis que les gens se lançaient. C'est en un week-end, qu'est-ce que j'arrive à faire avec rien? Et à la base, c'était vraiment ça.
Déjà, ce qu'on peut expliquer, c'est que le Ludomdare, ça a 15 ans, c'est la 38e édition. Cette édition, c'est son 15e anniversaire. Et ça a commencé effectivement comme un... Enfin, les débuts que moi, j'identifie, c'était un petit concours où il fallait vraiment à partir de rien. S'il n'y a aucun graphisme, aucun bout de code déjà fait, et sortir un jeu en 48 heures seul. Avec sa bite et son couteau, quoi, globalement. Donc vraiment un truc très, très dur, très hardcore. Et petit à petit, avec le temps, donc au début, c'était la première édition, peut-être 30 participants. Et petit à petit, ça s'est ouvert avec des catégories de concours beaucoup plus faciles.
Et l'idée, c'est un concours vraiment ou c'est... Alors,
c'est un concours sans prix, en fait, ouais. La finalité. Là, on ne parle pas de notre rassemblement, on parle toujours du Ludomdare international. Ce qu'ils expliquent clairement dans le règlement, c'est l'objectif, c'est pas de gagner, c'est son premier prix, le premier prix qu'on reçoit, c'est d'avoir réussi à faire un programme, un jeu. C'est-à-dire, on commence le vendredi soir, on finit le dimanche, et à la fin, on a un jeu. On commence un truc, un projet pour le finir. Et le deuxième prix qu'on reçoit, en quelque sorte, c'est qu'il y a un site international, enfin un site où tout le monde peut mettre son programme. On ne doit de voter que ceux qui ont fait un programme, donc c'est-à-dire c'est des gens qui savent ce que c'est, qui finalement sont plutôt bienveillants. Et ça lui donne une visibilité énorme. Alors que si on fait un petit truc dans son coin comme ça, bah, à moins d'avoir vraiment de la chance, il n'y a personne qui va le regarder. Et donc de bénéficier des retours d'expérience d'autres personnes. Et si le jeu est bien, avoir tout de suite plein d'utilisateurs. Donc finalement, l'objectif principal, ce n'est pas forcément d'être premier, c'est commencer un truc, le finir et le montrer au monde et en plus être certain qu'il y a des gens qui vont le regarder.
Donc c'est un prix en soi quand même parce que le jeu est utilisé, après les gens jouent, donc le produit existe en tout cas.
Voilà, c'est ça.
Est-ce que vous le comparez, vous, est-ce que vous trouvez qu'on peut le comparer au 48 Heures Film Project? C'est un concours international de faire, bah là pour le coup c'est un film pas un jeu en 48 heures et qui est né après, qui est arrivé à Tours, qui est arrivé dans d'autres villes. Est-ce que vous trouvez que le concept est un peu pareil ou alors ça reste différent quand même?
Alors moi je connais mal le 48 Heures Film Project, mais tel que tu le racontes, oui je pense que c'est le même esprit, c'est commencer un truc, le finir et puis se donner l'énergie pour le faire.
C'est plus un défi que vraiment
C'est vrai que j'utilise le terme concours un peu par simplicité, mais ouais, défi c'est bien, ouais. C'est un peu la même, je pense à la même motivation par exemple que des gens qui vont faire un marathon, c'est-à-dire ils se motivent pour faire un truc, finalement ils s'en foutent de gagner, ils veulent vivre cette expérience, ils se donnent les moyens avant et puis c'est très intense quand ils le font, ils sont contents quand c'est fini.
C'est ça, le but c'est pas de faire un jeu parfait, décidément, parce qu'en 48 heures ce n'est pas possible.
Ah si. Si.
Non, mais un jeu très poussé, très...
Ça dépend des objectifs.
Oui.
Et si on est raisonnable, en 48 heures, c'est faisable. Et en fait, l'idée, c'est aussi une quête d'apprentissage et d'amélioration de ses compétences à l'origine. Hein. C'est vraiment essayer de se défier, qu'est-ce que j'arrive à faire et qu'est-ce que je peux réussir à faire avec pas grand-chose en un temps hyper limité, quoi.
Et les gens qui vont faire le concours à Tours, du coup, est-ce que vous vous ancrez dans tout le processus international ou est-ce que ça reste un petit peu sur le côté? Comment ça se passe à
Alors,
Tours?
on triche un peu. L'année dernière, on a fait exactement le processus international, c'est-à-dire le siège en fait du concours, ça se passe aux États-Unis. Il y a un thème qui est tiré au sort avec toute une démarche qui est un peu complexe, où n'importe qui peut proposer un sujet. Mais du coup, il y a des milliers de sujets, donc il y a une passage qui s'appelle de slaughter, on va dire de massacre, pour petit à petit passer de 2000 thèmes proposés à 100, puis 50, puis 10, puis le vendredi soir à 18h chez eux, quoi, je crois, un seul. On se lève 20h, 21h. Sauf que nous, c'est pas super comme on est en avance. Donc ça fait que le thème, il sort samedi matin à 3h du mat. Et le concours finit, le concours pur et dur, lundi matin à 3h du mat. Et on s'est rendu compte que c'était pas très convivial pour nous. Donc cette année, on a un peu triché. On l'a pas expliqué parce que ça complique un peu la communication. Mais on va proposer un thème à Tours. Pour notre rassemblement à Tours, vendredi soir. Ce qui permettra à ceux qui veulent de commencer dès vendredi soir, s'il y a des purées dures, ils auront le droit de prendre le thème qui sortira à 3h du matin. Et finalement, nous, on fera un petit prix local avec deux catégories.
Ok, c'est donc la deuxième fois que c'est porté à Tours. On peut faire un petit retour sur la dernière fois. Il y a eu des jeux, combien de jeux de créés, combien de personnes de réunies?
On était 15, si je dis pas de bêtises.
15, je crois.
Ouais, un truc comme ça. En termes de jeux complètement fonctionnels, hein, on en a eu deux, ouais, c'est ça. Dont un jeu qui a été fait par quelqu'un qui n'était pas du tout dev, hein, qui a découvert les outils sur place. Bon, là, on l'a pas mal accompagné dessus, hein, mais il a réussi à faire son jeu. Et un autre qui a été fait par deux habitués qui ne se connaissaient pas du tout. Mais on a eu aussi d'autres résultats un peu transverses, où on a des gens qui du coup, faisaient du jeu en permanence et faisaient beaucoup de code, du coup. Mais qu'ils ne faisaient pas professionnellement, qui sont découverts aussi pendant la Ludum Dare, qu'il y avait moyen de gagner leur vie avec parce qu'ils avaient les compétences pour. Et depuis, ils ont suivi tout le monde pour faire une petite formation, valoriser leurs compétences, etc. Et du coup, qui vont devenir professionnellement développeurs. Enfin voilà, on a eu plein de petits retours comme ça. Il y a des gens qui ont rejoint Palo Alto, etc. Enfin, voilà.
Est-ce que les gens qui ont participé la première fois peuvent revenir sur cette deuxième édition ou vous préférez accueillir des nouvelles personnes?
Non, ils peuvent venir. Enfin, au contraire, d'ailleurs, on les a recontactés à eux en priorité. On a vraiment pris plaisir la première fois à être avec eux. Donc non, effectivement, il n'y a pas de raison de ne pas revenir, sauf si ça leur a pas plu. Mais voilà, donc globalement, au contraire, on est plutôt preneurs.
Je dirais même, en fait, c'est ceux qui ont participé la première fois qui aident à l'organisation de la seconde fois.
En plus.
Et les gens qui peuvent venir alors qu'ils n'ont pas participé la première fois, qu'est-ce qu'il faut qu'ils aient? Il y a aucun critère.
Qu'ils aient envie. Alors, c'est vrai que dans le recrutement, on a quand même essayé de faire un mix de compétences. C'est-à-dire, moi, je suis allé chercher des étudiants de brassard. Donc, il y en a au moins 6 qui vont venir, peut-être 8. Pourquoi? Parce que la dernière fois, on n'avait que des développeurs et pas de graphistes. Mais la dernière fois, c'était au mois d'août aussi, donc les étudiants, c'était compliqué. On allait voir toutes les écoles où il y a du dev à Tours. Donc, le CFIM, Supinfo, Polytech, l'Esten. On allait voir aussi les Beaux-Arts, on a proposé des étudiants des Beaux-Arts qui faisaient une séance de cours sur le non-jeu vidéo, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut utiliser ce support vidéoludique, on va dire, pour faire passer des messages. Il y a notamment un groupe qui s'appelle Elephant Cat qui bosse dessus et qui a animé ses ateliers. Je suis allé chercher aussi des gens qui travaillent sur le son électro et qui sont assez sensibles aux jeux vidéo, mais on a ouvert aussi spécialement sur... je suis allé voir les assos de jeux de société, parce que j'avais envie d'ouvrir à des gens qui sont pas forcément très bons en développement, qui n'ont pas forcément envie de tester, mais qui ont quand même cette histoire de création ludique dans les veines. Et c'est pour ça qu'on a laissé la possibilité de faire du jeu de société pour quand même s'éclater et créer des choses. Et du coup, on a proposé au Fun Lab, qui est un atelier de fabrication numérique, où il y a des imprimantes 3D, des choses comme ça, d'ouvrir. Donc il y a des bénévoles du Fun Lab qui seront là pour accompagner les gens qui ont envie de faire des objets physiques à utiliser les machines.
Ok. Ok, ça c'est pour le 21, si je dis pas de bêtises. On parle de la Ludum Dare, donc la Ludum Dare qui est ouverte à tout le monde, et pour les personnes justement qui n'ont pas les compétences requises, il y a des ateliers d'organiser dès demain. 5 ateliers au total, vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, du coup, demain, on commence avec notre premier atelier, qui est l'atelier pour faire des jeux de plateforme avec un outil qui s'appelle Construct. Construct, il y a des notions de logique dedans, mais pas de programmation. C'est-à-dire qu'il faut avoir un petit peu l'aspect logique sur s'il y a ça qui se passe, alors il y a ça qui se passe, des choses comme ça. Mais sinon, en dehors de ça, on peut tout faire sans connaissances techniques de développement. Il y a un peu de vocabulaire qui peut faire un peu peur, du coup c'est les choses qu'on abordera demain. Mais sinon, en dehors de ça, c'est vraiment faire un jeu avec rien. Il y a mercredi...
Alors, mercredi, c'est visite du Fun Lab, donc justement c'est plus pour ceux qui veulent faire soit du jeu de société, ou jeu de plateau, ou alors ce qu'on va appeler du jeu hybride. Alors ça c'est un peu plus complexe, c'est-à-dire un mélange de jeux de société et de jeux vidéo. Et le but effectivement c'est de découvrir, que les bénévoles du Fun Lab fassent découvrir les machines qu'ils ont, et ça clairement c'est pour des gens qui n'ont pas forcément envie de coder. On a jeudi l'atelier sur le graphisme dans les jeux vidéo, donc là nous dans l'équipe on a personne qui est très fort dedans, donc ce sera plus une discussion, on va se montrer les uns les autres les outils qu'on connaît. Donc nous on a cherché un petit peu avant, et c'est pendant 2 heures bidouiller ensemble, essayer de voir ce qui existe. Ensuite,
on enchaînera sur le 18, faire un jeu d'aventure.
Effectivement, ça c'est moi qui vais l'animer. Donc c'est un logiciel qui est pas tout jeune, qui s'appelle Adventure Game Studio. Et c'est comment est-ce qu'on fait un jeu en point and click du style The Day of the Tentacle, ou enfin des jeux assez anciens faits par Sierra ou LucasArts. C'est un outil qui est assez simple à utiliser, et du coup... qui est très facile d'usage, et notamment pour des gens qui savent bien dessiner, mais qui n'ont pas envie de se faire chier à coder. Il reste le dernier atelier, du coup.
Le 19, oui, du coup, on aura un atelier sur tout ce qui est musique, son, où on verra ce qu'on peut utiliser pour respecter vraiment les règles, si on veut, ou pas. Parce qu'il y a quelques contraintes aussi sur la production graphique et sonore. Mais sinon, c'est vraiment découvrir générateur de musique, générateur d'effets sonores, comment enregistrer tout ça, bidouiller un peu déjà tout seul, il y a moyen de faire des choses sympas.
Donc 5 ateliers, mais au final c'est assez complet. Si une personne vient aux 5 ateliers, elle est capable de créer un jeu de toutes pièces.
On va voir, il pourra créer 2 jeux, parce qu'il sera à la fois faire un platformer et un jeu point and click. Il y a une personne qui s'est inscrite aux 5 ateliers, donc on va voir s'il est assez courageux pour tout faire. Je suis assez dubitatif. Mais oui, en plus, il est probable que Ludovic et moi, on passe beaucoup de temps à tourner. Et à aider. Enfin, moi, je me suis placé un peu ça comme challenge, c'est-à-dire pas forcément développer, mais aider les gens qui ont besoin d'un petit coup de main technique.
Et ces ateliers, ce qu'on peut préciser, qu'on n'est pas obligé de participer au concours, peut quand même venir aux ateliers.
Ces ateliers sont gratuits, ouverts à tous, et effectivement, notamment à des personnes qui ne sont pas inscrites au Ludum Dare. Parce que nous, l'objectif, c'est faire découvrir et s'amuser ensemble. Donc effectivement, il y a l'événement Le Temps Fort du week-end, mais tout ce qui avance, ça en fait partie, et c'est chouette de venir. Et d'ailleurs, je pense qu'une bonne partie des personnes qui sont inscrites à ces ateliers ne sont pas inscrites par la suite au Ludum.
Non, il n'y en a presque aucun de ceux qui sont inscrits aux ateliers qui participent à la Ludum.
Peut-être qu'ils n'ont pas vu qu'il faut s'inscrire à la Ludum.
Ouais, ou simplement parce que ceux qui s'inscrivent à la Ludum ont déjà un panel déjà un petit peu derrière eux, ou des idées... Ils savent déjà peut-être un petit peu comment faire.
Et ces gens-là, justement, attendent de voir l'atelier, de voir s'ils sont capables, s'ils se sentent capables, en tout cas, eux, de...
On leur demandera demain, on sait pas.
Ouais.
De faire ça.
C'est vrai qu'on avait eu des inscriptions de dernière minute, juste après les ateliers, de gens qui avaient vu, ouais, je vais peut-être arriver à faire quelque chose, et qui s'étaient inscrits dans la semaine juste avant l'événement.
Après, c'est vrai qu'on a un nombre limité de places, hein, parce que ça se passera à MAM, c'est un établissement qui n'est pas établissement recevant du public, donc à chaque fois, on a besoin de demander une autorisation spéciale. Donc là, on a demandé une autorisation pour 80 personnes, et il se trouve que le samedi après-midi, on aura déjà un événement qui rassemble 40 personnes, c'est le coding goûter. Donc ça, c'est encore un autre truc où on va accompagner des enfants, et il y aura des graphistes de Brassard qui seront avec eux, il y aura peut-être un musicien aussi qui sera avec eux, donc ça permettra d'avoir les enfants qui font un truc simple mais génial, et qui en plus sera mis sur le site officiel, et le monde entier pourra juger leur programme. On expliquera bien sûr que c'est fait par des enfants, et voilà. Mais du coup, ça fait que nous, notre jauge de participants de Ludum Dare pour tout l'événement va être un petit peu limitée. Donc c'est pas grave, s'il y a des gens qui peuvent venir cette fois-ci, ils viendront la prochaine.
Et justement, pour s'inscrire, comment ça se passe ?
Alors, il faut aller sur le site de Palo Alto, donc c'est paloaltour.org. Et dedans, on a une page qui est Ludum Dare, donc c'est dans Action, Ludum Dare. Et puis là, on explique tout l'événement, et notamment, on a mis les liens pour s'inscrire à chacun des ateliers. C'est important de s'inscrire aux ateliers parce que on a besoin de savoir combien de personnes, est-ce qu'on a un nombre limité de places, quoi. Surtout pour la visite du Fun Lab. Et c'est là aussi il y a le lien pour s'inscrire à Ludum Dare, et c'est 20 € pour le week-end parce que nous on a quelques frais notamment de location d'équipement, voilà.
Et ça se passe le 21 et au bout de quand?
Du 21 au 23.
Du 21 au 23, ouais.
Vendredi soir jusqu'à dimanche soir, et les plus réduits qui veulent faire la jam. Pardon, donc ça c'est un concours en 72 heures, c'est ça?
Oui.
En fait, on va louer un autre lieu parce que MAM, c'est un endroit où il y a aussi des gens qui travaillent. Et donc, on va devoir partir, hein, quitter MAM. Et donc, on a loué l'Étoile Bleue, qui est le siège de la Jeune Chambre économique, pour ceux qui veulent bosser jusqu'à mardi 3h du matin.
Et les jeux apparaîtront combien de temps après?
Tout de suite.
Tout de suite.
Là,
dès la fin du concours, ils sont...
C'est la responsabilité de chaque équipe de mettre leur jeu sur le site officiel. Alors ça, c'est vrai, on n'a pas beaucoup communiqué dessus encore parce que ça fait un peu compliqué. Mais là, on va envoyer un mail à tous les participants pour leur dire de se préparer, expliquer un peu comment ça se passe. Et c'est ce dont on va parler vendredi soir. Et c'est aussi un des rôles qu'on a, nous, en tant qu'organisateurs, de faire que ce genre de choses se passe bien.
Donc, dès le 23, on pourra jouer au jeu créé à Tours durant le week-end sur cette plateforme.
Exactement. Et on prévoit aussi le 23 au soir... dimanche soir de faire une soirée de clôture. Alors c'est pas une vraie clôture parce que on sait qu'il y a des purées dures qui vont durer jusqu'à mardi, mais au moins ça permettra pour la plupart des projets, je pense, faire une petite fête. Pareil, on a une jauge qui sera limitée à 80, donc il y aura la possibilité pour des gens qui sont pas encore inscrits, qui n'ont pas participé, de venir. Alors par équité, parce qu'on va acheter des pizzas, le prix d'entrée sera 5 €, voilà, il y aura cette possibilité. Et un événement qu'on n'a pas encore annoncé, c'est au moment de la remise du classement officiel, donc c'est mi-mai, j'ai pas la date en tête exacte, on va essayer d'organiser un événement de retour, de débriefing de la Ludum Dare.
J'imagine qu'on retrouvera les infos sur la page Facebook de Palo Alto, sur les réseaux sociaux en tout cas.
Faut qu'on demande aux responsables de communication, mais normalement c'est le but. Ouais.
Oui. Ok. Moi, je vais vous remercier d'être venus tous les deux ce soir dans l'émission pour nous présenter l'association et le projet un peu plus en détail. Merci à vous.
Et merci beaucoup.